1, 2, 3, climat.
L'émission 100% solution.
Comprendre, dialoguer, bifurquer.
Sobriété et efficacité.
1, 2, 3, climat.
Sur Radio Barthas 107 FM.
Eh bien, bonsoir chères auditrices et auditeurs, bienvenue sur le 107, sur Radio Barthas. Vous êtes à l'écoute de 1, 2, 3 Climat, votre émission préférée. Alors, ce soir, on va parler pognon, argent, finance. Alors, vous devez vous dire, mais ils sont devenus complètement fous, 1, 2, 3 Climat, quel rapport et tout ça. Eh bien, j'espère qu'on vous prouvera que les deux sont liés. Donc, on accueille ce soir Chantal Aymard et Daniel Belon. Donc, alors d'abord, bonsoir Yannick, bonsoir Chantal, bonsoir Daniel. Alors, dites-moi en quelques mots, Chantal, Daniel, qui vous êtes et qui vous représentez? Quelle structure?
Donc, moi, je commence. Je suis adhérente de la monnaie locale Cévenol, l'AEGA, voilà, et j'ai participé au cercle de gestion, et là maintenant je m'occupe principalement de son développement au niveau de Gorges-Causses-Cévennes.
Oui, on reviendra dans le détail sur toute la géographie de
l'AEGA. Je suis habitante d'Evanel.
Voilà, donc tu es du comité local en fait.
Oui,
voilà.
Du groupe local.
Du groupe local, pardon. Et Daniel?
Ben moi, je suis également dans le groupe local GCC. J'habite dans un petit hameau de la commune de Bar-des-Cévennes. Mais je suis aussi un des représentants légaux de Cévennes en transition, qui est l'association qui a créé l'AIGA et qui la gère sur un territoire plus vaste qui va grosso modo de Alès à Auvigan, Marvejols, Mende, Bessèges.
D'accord. Un des administrateurs, donc, président ou...
C'est une collégiale, donc une collégiale. Est trois représentants légaux, donc trois coprésidents, si on peut dire.
Ok, très bien. Bon, ben, je crois qu'on va s'échauffer avec la chronique de Yannick.
Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays?
Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Du coup, pour préparer cette chronique et cette émission, je me suis plongé dans l'histoire parce qu'on brasse de l'argent, des sous, des pièces, de la monnaie numérique. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la monnaie? Et son histoire est très ancienne. En fait, on remonte depuis l'existence des sociétés et des rassemblements humains avec des interprétations un peu différentes, on va dire, dans l'histoire, mais que maintenant, on est à peu près d'accord. Mais d'abord, la monnaie, l'argent, ça repose sur une confiance institutionnelle. Quelle que soit l'époque, une monnaie est une unité de compte, ce qu'on appelle une unité de compte, c'est-à-dire la mesure, un intermédiaire des échanges, le paiement, et une réserve de valeur, ce qu'on appelle l'épargne. Ça, quel que soit, depuis que la monnaie ou l'échange de financier existe, chaque monnaie répond à ces trois critères. Actuellement, on fait évoluer un peu ces définitions historiques, puisque, avec entre autres, par la suppression de toute référence à des matières précieuses, puisqu'il n'y a plus d'étalons or, comme on dit, vous avez tant de francs ou tant d'euros parce que vous avez telle réserve d'or dans la Banque de France où, en fait, à la fin, elle était toute stockée dans les banques américaines, la Banque fédérale. En fait, ça n'a plus de rapport, ça n'existe plus, déjà depuis quelques temps, malgré qu'on pense toujours que c'est le cas. C'est notre richesse, entre guillemets, richesse, hein, c'est pas, richesse financière n'est pas du tout liée à un support de matières précieuses. Dans le temps, il y a eu toutes les matières précieuses possibles et imaginables. Hein, ça a été le plomb, ça a été l'argent, ça a été l'or dans nos sociétés modernes. Mais c'est plus un support de monétisation. Donc c'est pour ça que les définitions changent. Et du coup, les aspects légaux de l'usage de la monnaie sont fixés par l'État et font de la monnaie une institution constitutionnelle. En fait, c'est noté dans nos constitutions. La monnaie est donc l'instrument de paiement en vigueur en un lieu et une époque donnée. Ça change en fonction des lieux et des époques. du fait de la loi, on parle du cours légal, du fait des usages, les agents économiques l'acceptent en règlement d'un achat, d'une prestation ou d'une dette. Justement, l'histoire de la monnaie est le champ de deux batailles théoriques opposées. L'une commerciale, voyant la monnaie comme un facilitateur d'échange né du troc, et l'autre, plus anthropologique, la voyant comme un système de comptabilité sociale né de la dette. On pense généralement qu'à partir du moment où on vivait en société, on a commencé par le troc et ensuite on a créé la monnaie. Mais les anthropologues nous ont démontré le contraire. La monnaie a précédé, les historiens nous disaient que la monnaie a précédé le crédit. Or, les recherches modernes ont démontré que ce n'était pas le cas. Il y a plus de 5000 ans en Mésopotamie, bien avant l'apparition des pièces de monnaie et de l'échange d'argent, au sens physique du terme, il existait déjà des systèmes complexes de crédit et de compensation de dettes, comme ils disent. Les temples et les palais tenaient des registres comptables, les fameuses tablettes d'argile mésopotamiennes, où les dettes des paysans étaient inscrites. En Égypte antique, un système similaire fonctionnait aussi. Ainsi, le crédit et la monnaie de compte, tel qu'on le connaît actuellement, ont précédé la monnaie physique de plusieurs millénaires. Avant d'échanger de l'argent, on échangeait déjà des crédits via des tablettes et des documents écrits. Le troc qu'on pensait à l'origine, en fait, n'était pratiqué que marginalement, souvent avec des étrangers, je mets des guillemets, ou des ennemis avec qui on n'avait aucune relation de confiance. On ne pouvait pas leur faire crédit. Donc, ce n'était pas possible d'échanger, de faire du crédit. Donc là, on pouvait faire du troc. Et ces notions restent toujours dans notre langage courant, parce que crédit vient du latin « croire », « avoir confiance ». Et par ailleurs, la monnaie fiduciaire, le terme fiduciaire, qui est la monnaie comprenant les pièces modernes et les billets de banque, le mot fiduciaire vient du latin fiducia, la confiance. Donc l'histoire de la monnaie, c'est une histoire de confiance et d'échange de crédit, de dette, avant d'être une histoire d'argent au sens pièce et compte. L'histoire nous enseigne donc que la monnaie n'est pas définie par son support, l'or, le papier ou autre, mais par les fonctions qu'elle remplit et le lien social qu'elle tisse. Alors le lien social du crédit ou de la dette actuellement, on ne peut pas parler trop de ça, mais à l'époque ça vient de là. C'est les Grecs puis les Romains qui ont largement développé la monnaie, l'argent au sens pièce, au départ reposant sur une confiance institutionnelle. C'était l'État qui gérait globalement le système. Dans notre époque moderne, avec une économie de marché, des millions de personnes prennent des décisions décentralisées et souvent contradictoires, et qui créent de la monnaie et de la valeur. La validation sociale des décisions est donc le marché. Pour que ce système fonctionne, la monnaie est vitale puisqu'elle véhicule l'information via le système de prix. Alors là, il faut bien suivre. Dans une économie heureuse, comme disent les économistes, si ça existe, hein, moi j'ai un peu du mal à y croire, les prix devraient refléter les raretés relatives et guider efficacement les choix de production et de consommation. Est-ce encore le cas? C'est une grande question. Maintenant, les monnaies varient entre elles librement, suivant l'offre et la demande, et donc en principe selon la quantité de crédit émise par chaque pays. Il n'y a plus de contrepartie métallique à la monnaie émise, seulement de la dette. Donc la monnaie a une valeur toute relative liée au crédit et à la dette, qui est notre système capitaliste. Mais un autre système a déjà été testé, avec une économie dirigée ou planifiée. Un centre unique de décision collecte les informations et alloue les ressources. La monnaie devient presque inutile. Elle est un simple bon d'achat, mais n'a pas de valeur. Lénine disait, pour détruire le système capitaliste, il suffit de détruire sa monnaie.
Bon, merci Yannick. On va méditer cette dernière phrase alors. Voilà, je pense qu'on va écouter un petit peu de musique et puis après on va donner la parole à nos invités qui sont impatients.
On écoute Saez, Les Petits Sous.
Des petits neurones dans les cerveaux qui disparaissent de jour en jour. Dans les petits bois, les petits discours, des petits rois dans les basses-cours. Des petits qui se cachent, des petits qu'on cache, des petits qu'on joue. Appuie nos faces, des petits pour faire grossir les ventres. Des petits caissiers dans les carrefours, des petits problèmes de récession. Des petits ministres dans les prisons. des petits pour payer ton loyer, des petits pour la communauté. Taper, taper sur les claviers, des pompes funèbres au cours d'école. Faut voir comme les petits sont fringués, y'a de la griffe sur les guiboles. Des petits insectes sur les flammes, petits bugs dans le computer. Des petits pour l'eau, des petits pour l'air, petits pour me pourrir l'atmosphère. Marcher, marcher, les petits pinsons, les petits rois, les petits cons. Des petits pour vendre qui on a, à la criée sur les marchés, oui. Des petits œufs, des petits œufs, qui veut des petits œufs? Des petits œufs, des petits œufs, on veut des petits œufs, allez. Des petits œufs, des petits œufs, qui veut des petits œufs? Moi, moi. Des petits œufs, des petits œufs, moi je veux. Dans les rizières, des petits chinois, la planète à la gueule de bois. Dans les usines, sur les machines, tandis que le peuple s'échine. Tapez, tapez sur vos claviers, dans la matrix on se fait violer. Oui, le peu qu'il reste d'humains, contre un karma dans du satin. Dans les salons, les résistants, les dandies et les bien portants. Portant la sœur de tous ces hommes, combattant de moulin avant. Les fils de paix, les fils de roi, les fils de rien. On fils à moi, tous à la chasse, à la monnaie. Un petit pourboire et grenier. Ça fait dans le dos. Des petits qu'on nous a fait dans le dos. Des petits qu'on nous a fait dans le dos. Des petits placés sur les marchés. Des petits sûrs qui feront des petits. Comme la connerie qui se multiplie. Ton petit chèque en fin de mois. Non, lui, il se multiplie pas. Comme le cynisme dans les sourires. Des petits tartuffes dans les parties. Des petits problèmes de récession. Des petits ministres dans les prisons. Des petits qui se cachent. Des petits qu'on cache. Des petits qu'on jeu. À pile ou face. Petits pour faire grossir les gros. Pour rendre les petits toujours plus petits. Pour que le petit n'ait d'autre choix. Pour vous donner qu'il faire des petits. Des petits œufs, on veut des petits œufs. Des petits œufs, des petits œufs, on veut des petits œufs. Allez! Ouais, sûr, moi j'aurai des petites camées en planche à pain pour aller vendre un petit parfum à des gamins qui rêvent de rien. Que de s'habiller comme des putains, des petits bébés, tout les tourneaux. C'est bon dans les publicités pour vendre des petits qui t'aiment. Voilà, je le sens. Tapez, tapez sur le clavier. Dans la matrix on se fait galer. Où le peuple qui reste d'humain. Contre un karma dans du satan. Des petits œufs, des petits œufs. Qui veut des petits œufs? Des petits œufs, des petits œufs. On veut des petits œufs. Ouais. Des petits œufs, des petits œufs. Qui veut des petits œufs? Moi, moi. Des petits œufs, des petits œufs. Moi je veux, moi je veux, moi je veux. Des petits œufs, des petits œufs. Qui veut des petits œufs?
Donc c'est parti pour Daniel et Chantal. Alors d'abord, donc si on parle de l'AIGA, il y a une association qui est support, donc qui s'appelle Cévennes en transition. Qui c'est qui veut bien nous dire depuis quand existe Cévennes en transition, Daniel, en tant qu'administrateur, à toi la parole.
Merci. Cévennes en transition a été créé en 2018 et a mis en circulation l'AIGA en 2019. En même temps qu'un certain nombre d'autres monnaies locales en France qui se sont créées dans la foulée de la loi de 2014, loi sur l'économie sociale et solidaire, dite loi Hamon aussi, qui a légalisé les monnaies locales à ce moment-là dans quelques articles de cette loi. Auparavant, en France, dès 2010, un certain nombre de monnaies s'étaient créées de manière un peu sauvage, hors de tout cadre légal, la première étant à Villeneuve-sur-Lot, à côté d'Agen. Ces créations ayant été suscitées par la crise des subprimes de 2008. Et donc, comme il était dit tout à l'heure, le manque de confiance dans la monnaie officielle,
la monnaie officielle oui,
a généré en Grèce notamment des monnaies locales qui ont été pour la plupart créées par les municipalités, qui faisaient des petits bouts de papier avec un tampon, mais en quels les gens avaient confiance et se servaient pour faire leurs échanges, alors qu'ils n'avaient pas confiance dans la monnaie officielle, qui avait une inflation considérable, etc.
Bon, et géographiquement, alors, l'AIGA, on peut la trouver, la dépenser sur quelle zone géographique? Je crois que ça va jusqu'au Vigan.
Oui, alors, ça a été créé entre Alès et le Vigan, à l'origine, et ensuite, ça s'est développé un petit peu en remontant vers le nord. Donc à Florac 2020, si je me souviens bien, et puis Mende 2021.
Ah oui, ça va jusqu'à Mende aussi. Oui, d'accord.
Et ça déborde un petit peu sur le Villefort, un petit peu sur le limite de l'Ardèche, Bessèges, enfin tout ce secteur-là en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'au départ c'était la monnaie locale des Cévennes. Et maintenant on l'appelle plutôt Cos-Cévennes parce que c'est pas que les Cévennes.
Faut pas oublier, faut pas fâcher les Cosnards. Et
puis on va avoir Gorge bientôt.
Ouais, Gorge, Cos,
comme un peu tous les locales.
Alors oui, très pratiquement, donc là il y a c'est des billets. Donc qui sont imprimés où? C'est un peu... Alors, j'imagine qu'il y a des précautions à prendre.
Oui, tout à fait. Oui. À l'origine, donc, les billets ont pu être imprimés grâce à une subvention de la région. La région Occitanie soutenait fortement les monnaies locales, puisqu'il y a 13 ou 14 monnaies locales en Occitanie, qui sont regroupées d'ailleurs dans une structure informelle pour échanger entre nous. Et pour la création de la monnaie, c'est effectivement l'impression des billets qui coûte cher et au démarrage. Ouais. Et donc ça a été imprimé pour nous dans une imprimerie sécurisée spécialisée pour les billets, qui est dans le Vaucluse, si je me souviens bien.
Oui, d'accord.
Voilà, il y a chaque monnaie locale a son propre design, en quelque sorte, ses propres modes de sécurisation, ses propres types de billets. Nous, ça va de 50 centimes à 50 taïga. On va pas en dessous de 50 centimes, on n'a pas de pièces de monnaie.
Parce que y a pas de pièces. Hein.
Ça serait trop cher à fabriquer.
Trop compliqué, oui.
Par contre, depuis, avec l'évolution du temps, un certain nombre de monnaies ont créé aussi des monnaies numériques pour faciliter les échanges et ne pas utiliser uniquement des billets, notamment pour les transactions entre professionnels, qui étaient quand même un peu compliquées avec des billets, pour atteindre des sommes parfois un petit peu importantes. Et donc, la plupart des monnaies qui ont connu une croissance importante ont créé une version numérique à partir d'un outil informatique créé par un collectif.
C'est le cas pour l'AIGA.
C'est le cas pour l'AIGA. Mais nous, on l'a limité volontairement aux échanges entre professionnels, pour l'instant.
D'accord, les particuliers ne peuvent pas arriver, il n'y a pas de carte bancaire.
On pas accès, ça fait partie des perspectives d'évolution, parce qu'on s'aperçoit que c'est une nécessité de simplifier les échanges avec les outils numériques, type téléphone portable ou carte, etc. Pour l'instant, on l'a pas fait, parce que ça nécessite un petit peu de moyens de mise en place. Et il faut aussi qu'il y ait suffisamment de professionnels qui acceptent ce mode de paiement pour que les particuliers puissent l'utiliser de manière assez large. Et donc, dans un premier temps, on promeut ce système de monnaie locale numérique IAIGA entre professionnels pour qu'ils puissent échanger entre fournisseurs et clients, et en espérant qu'un certain nombre suffisant utilise cette AIGA numérique pour pouvoir ensuite proposer aux particuliers de faire pareil.
Et ça marche entre les professionnels ?
Ça marche entre les professionnels, oui. Au début, par exemple, les brasseurs de la Jonte, qui desservent quand même beaucoup de gens sur le territoire, voire même au-delà, et qui acceptent l'AIGA depuis l'origine, pour être payés, devaient récupérer des enveloppes avec des billets. C'est quand même un peu compliqué. C'est pas très pratique. Donc, eux sont très contents de pouvoir recevoir sur leur compte en IAIGA les paiements de leurs clients, en fait.
Oui. Et alors, justement, si je veux trouver comment ça se passe, en fait, si je veux me procurer des billets de l'AIGA ou d'AIGA?
Alors, on dit AIG ou AIGO. Aïga, voilà. Aïga, donc bon. Finalement, on dit Aïga.
Aïga, oui.
Donc, bon, on a des comptoirs d'échange. Mm-hmm. Donc, à Florac.
Oui, par exemple, à Florac.
À Florac, mm-hmm. Il y a le food truck d'Agnès qui permet d'échanger tous les jours, à part le samedi et le dimanche.
Oui.
On a un comptoir d'échange.
Donc là, je vais avec mes billets en euros.
Voilà, et elle vous change ça.
Et hop, elle a sa caisse en Aïga, voilà. Et d'accord. Mm-hmm.
Voilà. Ou avec un chèque.
Ou avec un chèque.
Oui, puisque après,
on aime bien les chèques, en fait.
Oui. Ce qui est pratique, parce qu'il y a un certain nombre d'endroits, notamment dans les Cévennes, où il n'y a pas de distributeur automatique de billets.
Oui.
Et donc, si on a un comptoir d'échange, les personnes, en échange d'un chèque, peuvent recevoir des billets d'Aïga, ce qui est pratique.
Et du coup, super
pour vous, pour gérer la gestion financière est plus simple.
Oui, et puis ça remplace le distributeur de billets. Le distributeur de billets,
c'est quelqu'un. Là,
c'est un distributeur quelqu'un. Humain de billets, c'est ce qu'on
C'est dit. Assez agréable.
Ouais, c'est pas mal.
Il y a une permanence à la pompe le jeudi matin.
La pompe, on peut aussi acheter.
Oui, le jeudi matin.
D'accord.
Entre 10h et 11h. Et puis on va déplacer ça sur le marché. On a décidé ça lundi. Et puis il y a deux comptoirs d'échange sur le COS, donc au garage. Chez Sandrine à Saint-Pierre-des-Tripiers, donc là c'est plutôt par rendez-vous. Donc moi aussi je fais comptoir d'échange du côté de Vébron, les Vanelles, et Daniel fait comptoir d'échange du côté de Bar des Cévennes et Vergougnous.
Il y a aussi un comptoir à Sainte-Croix à la Baraka et à la Biocoop de Mende.
Donc ça, c'est idéal. Si vous voulez, quand c'est dans un commerce, c'est assez idéal.
Si tu as besoin.
Parce que c'est permanent.
Ouais, puis eux, ils ont leur caisse et ils font autre chose. Ouais. C'est indépendant. On ne vous dérange pas n'importe quand. Quoi.
Donc la plupart du temps, au Vigan, c'était aussi à la Biocoop. On fait des comptoirs d'échange comme ça, si possible, plutôt dans les commerces pour faciliter les échanges.
Et alors, par contre, donc pour un commerçant, avoir de l'Aïga, ça implique quand même d'avoir deux caisses. C'est pas un frein, ça, ça...
Alors, pas forcément.
Oui.
Bon, donc, par exemple, dans l'ancienne épicerie de Vébron, ils avaient dans leur caisse une partie avec des Aïga. Mais c'est comme du liquide. Donc, il n'y a pas forcément à différencier au niveau de la comptabilité.
D'accord, oui, voilà. Puisque c'est un Aïga, c'est un euro.
Voilà,
ouais,
donc c'est absolument comme du liquide.
Oui, ok.
Donc il y a certains professionnels qui, eux, ne disent rien à leur comptable, parce que c'est du liquide. Voilà.
Oui.
Donc ils payent avec ceux qui acceptent, leurs fournisseurs qui acceptent l'Aïga, ils payent en Aïga, et puis voilà.
C'est transparent.
Voilà. Ouais. Bon. Pour des questions de précision, on peut effectivement séparer les deux.
Différencier les deux.
Séparer les deux, mais ce n'est pas obligatoire.
Oui, voilà. D'accord.
Après, c'est effectivement une petite complication pour les commerçants, parce qu'il faut qu'ils aient plus de billets dans leur caisse.
Ils ont deux monnaies, quoi.
Voilà, ils ont deux monnaies, et bon, en général, ils séparent, et donc il faut un peu plus de cases pour pouvoir les séparer.
Il faut une caisse plus grosse, en fait.
Voilà, mais sinon, c'est à peu près la seule complication. Oui. Fiscalement, ça ne change rien, parce qu'on nous pose parfois la question.
La TVA, tout ça.
Certaines personnes pensent que c'est un moyen d'évasion fiscale, d'éviter la TVA.
Ah bon ?
Non,
mince.
Non, en fait, c'est considéré comme un paiement en espèces.
D'accord, d'accord. Ok, et alors...
On ne peut pas tricher, quoi. On ne peut pas faire de l'évasion fiscale.
Non,
mais tout est tracé, en fait.
Donc, par contre, oui, il faut être... C'est une association, donc c'est maintenant en transition. Donc, il faut être adhérent pour utiliser l'Aïga.
Tout à fait, ça, c'est un critère qui a été fixé par la loi de 2014,
d'accord,
qu'on évoquait.
C'est obligatoire.
Il faut que ça circule dans un cercle fermé d'utilisateurs et géré par une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc ça pourrait ne pas être que des associations, ça pourrait être des coopératives, par exemple. Mais aujourd'hui, sur les 70 monnaies qui fonctionnent en France de manière régulière, c'est que des associations, pour l'instant.
Mais du coup, en tant que particulier, si on veut de l'Aïga, il faut adhérer à l'association.
Tout à fait.
Comptoir, on adhère à l'association et après on peut retirer. Je ne viens pas avec mon chèque.
Tout à fait.
Il faut que j'adhère à l'association.
Il faut adhérer aussi et les professionnels de la même manière.
Ils doivent adhérer aussi. C'est la cotisation annuelle alors c'est...
Alors la cotisation pour les particuliers c'est 10 euros par an. Pour les professionnels c'est 20 euros avec 15 euros par équivalent temps plein salarié.
D'accord.
De manière à tenir compte de la taille de l'entreprise. Bon, les brasseurs de la jante payent une cotisation plus importante que Agnès à son food truck, par exemple.
Oui, qui est toute seule.
Donc, c'est 10 euros la première année. Oui. Et puis après, on peut payer en AIGA sa cotisation.
Oui. C'est, voilà. Il faut adhérer. C'est comme il disait, la loi dit en cercle fermé. Ce n'est pas en cercle ouvert. Il ne faut pas que ça circule. Ils veulent
après,
pas
l'État après conserver. Bon, si on va être tout à fait honnête, nous, on maîtrise l'émission de l'AIGA, puisqu'on tient les bureaux de change, on les diffuse. On travaille éventuellement avec les professionnels qui, s'ils ont trop d'AIGA, pour pouvoir les dépenser eux-mêmes auprès de leurs fournisseurs, peuvent demander à les reconvertir en euros. Donc ça, on le fait. Après, une fois que les gens ont des AIGA, on ne sait pas ce qu'ils en font. Ils peuvent éventuellement, eux, les échanger contre des euros à un voisin ou à un ami. Nous, on ne le sait pas.
C'est pas très grave, à la limite.
Non, pour nous, c'est au contraire... une manière de la faire circuler
de diffuser
encore mieux.
Voilà.
Mais on ne peut pas, pas garantir qu'il y a que des adhérents qui l'utilisent. Qui, en fait.
Alors, pour aider au fonctionnement de l'association, là, il y a des salariés, un salarié, comment c'est géré?
Pour l'instant, c'est que du bénévolat. On a eu des services civiques, on a eu des stagiaires. Chaque fois, ça nous boostait, il faut le reconnaître.
Oui. Dans le bon sens, tu veux dire, Chantal?
Oui, dans le bon
sens. Ça oblige à faire...
C'est-à-dire qu'ils ils viennent avec des outils, ils nous donnent du temps, enfin, vous voyez. Donc, pour l'instant, c'est que du bénévolat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec cette subvention qu'on a eue de la région, on a tout mis en place. On a le site, on a la monnaie numérique, on a les billets, on a les comptoirs d'échange, on a... 300 accepteurs, on a un millier de personnes qui se sont, à un moment donné, ont adhéré. Hein. Tout est en place. On a un comptable, bien entendu. Donc tout est structuré, tout est en place. Voilà. Donc maintenant, c'est de l'animation pour développer son utilisation.
Okay,
et surtout alors... l'implication des collectivités locales.
Oui. Oui, je crois qu'il y a des projets, mais il faut que les collectivités locales suivent.
Il faut qu'elles s'en servent.
Voilà.
On en parlera par rapport au climat.
Oui. Alors, juste pour finir cette partie, peut-être vous pouvez nous dire, nous parler de quelques commerçants à Florac ou dans les environs qui acceptent les AIGA. Je ne pense pas que ce soit de la publicité.
Non, mais pour savoir, parce que
ça donne une idée de où on peut dépenser nos AIGA.
Oui. Donc il y en a une soixantaine sur notre territoire.
D'accord, mais quand même.
Sur Florac, donc il y a la boucherie Room. Voilà.
Une institution.
Oui. Il y a l'embuscaf, la madeleine, il y a
la crêperie,
il y a la mercerie, il y a...
Deux médecins.
Ah oui,
des médecins
oui, tout à fait.
D'accord.
Donc ce qui nous manque, c'est maintenant des épiceries. On avait un biojour, mais qui s'est retiré.
D'accord.
Et donc il faut qu'on trouve des commerces alimentaires pour que... les utilisateurs puissent utiliser ça pour se nourrir, parce que c'est quand même le principe.
Oui, ça commence par la nourriture. Voilà.
Donc il y a la Biocop demande aussi, il y a...
Pétassou, la Sainte-Croix, Friperie.
La Baraka,
Sainte-Croix. L'auberge Sévenol à la Saint-Brunet. On a un panel relativement varié. Au début, quand on a implanté l'AIGA sur le territoire, on s'est focalisé plutôt vers les professionnels en disant bon, les gens s'en serviront uniquement s'ils savent où est-ce qu'ils peuvent aller dépenser les AIGA. Donc aujourd'hui, on a un réseau de professionnels qui est plutôt bien développé. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, ce sont les adhérents individuels qui ne l'utilisent pas suffisamment. On a un millier d'adhérents à peu près au total sur l'ensemble du territoire, mais il y en a guère qu'une centaine qui l'utilisent régulièrement. Les gens trouvent que l'idée est très bonne, quand on discute oui. avec eux dans les manifestations ou autres, donc ils adhèrent volontiers. Pendant un mois ou deux, ils vont au bureau de change pour échanger, et puis petit à petit, on oublie. Quand on va chez le commerçant, on n'a pas pris des aigles
oui,
au
porte-monnaie,
et donc ça se ouais. délite, parce que objectivement, il y a une petite obligation, une petite contrainte de plus que de sortir sa carte bancaire et de la passer. Mmh.
Voilà. Et puis on a encore confiance à l'euro.
Alors il y a Nature parler. Et Progrès aussi, il faut le dire. Mmh. Il y a les brasseurs oui. de la Jonte. Hein.
Oui.
Il y a
oui, puis des producteurs.
La brasseuse.
Des Cévennes.
Oui,
voilà. Et puis il y a aussi la ferme des Roches. Il y a aussi. Il faudrait
aller chercher.
Il y a aussi une association qui donne des cours de Qigong. Mm-hmm. Vous voyez, donc
les particuliers, comme tu disais, s'en mm-hmm. servent encore. Mm-hmm. On l'a pas intégré dans nos habitudes.
Voilà. Ouais. D'où l'idée qu'on a justement de passer avec la monnaie numérique,
oui.
qui est beaucoup plus simple
d'utilisation.
On a toujours
oui.
son téléphone mm-hmm. portable. Mm-hmm. ceux qui en ont un avec soi, et on peut payer avec, et ça facilite effectivement la fluidité et les échanges. Quand on regarde nos collègues des autres monnaies, ceux qui ont, au moment où ils sont passés en monnaie numérique, tout en gardant quand même les billets, bien entendu, hein, mais quand ils ont passé en monnaie numérique, ils ont grosso modo doublé le volume de monnaie en circulation. Et au bout d'un oui. an ou deux, ils ont 80% des échanges en monnaie numérique
en
et
numérique.
20% en billets.
Il y a aussi le pain pour demain.
Oui, donc c'est... Voilà. Oui, pour rebondir sur le numérique, oui, d'accord. Donc c'est quand même...
La farine aussi. Ouais. Il y a la farine, il y a le moulin de la Bourrie.
Le moulin de la Bourrie, oui.
Christophe, la farine, là,
oui.
Le moulin de Gradgal,
oui.
qui prend. Voilà, donc...
Ouais, c'est nous, en tant qu'individus, qui n'avons pas encore pris cette habitude, quoi.
Oui,
oui c'est ça.
Bon, moi, et je sais qu'il me faudrait deux porte-monnaies, comme ça, ce serait clair.
Oui, bah,